C'est à moi donc. Merci. Merci de l'invitation, parce que vraiment, c'est des événements auxquels je participe volontiers, tous azimuts. Quand j'étais à la rédaction de l'Estrait Républicain, j'étais souvent envoyé volontaire, j'étais d'ailleurs le seul volontaire, pour aller expliquer le métier en milieu rural, essentiellement, dans les collèges, les lycées. Après ça, je suis même allé devant des classes primaires, c'était plus difficile. Et puis, moi j'ai commencé ma carrière de journaliste à 8 ans en fait. Je relatais les journaux radiophoniques de mes parents quand ils rentraient le soir. Et puis, ils n'étaient pas tellement. Comme ils écoutaient la radio avec énormément de sérieux. Il m'avait. Je me souviens particulièrement une fois, je leur ai dit il y a une voiture qui est tombée d'un ravin, 60 mètres, je ne sais plus. Et les faits divers, ils n'avaient déjà pas. Et ils ne m'ont pas encouragé à faire ce métier, parce qu'ils ont peut-être eu raison, en fait. Parce que, et ma carrière de journaliste donc, s'est mise très longtemps entre parenthèses, jusqu'à. La fin des années 70 et le début des années 80, et le mouvement des radios libres. Les moins de 50 ans n'ont pas connu, mais ils n'ont pas entendu parler. Il y avait à l'époque un monopole d'État de l'audiovisuel qui s'appelait l'ORTF. Et puis il y avait trois exceptions, RTL et Europe 1. Le monopole, Monte Carlo dans le sud, et puis Sud Radio aussi à Andorre. Et puis, il y avait un monopole d'État, plus les périphériques, comme on les appelait. Et qui est tout un vaste mouvement qui venait après mai 68. Je pense que c'est dans la foulée de mai 68 qu'il y a eu des effets sur plusieurs années, qu'il y a eu un désir d'émancipation de la société, notamment sur la circulation de l'information ou la production d'une information un peu différente. Hein. C'est aussi la décennie 70, celle où se crée Libération. Enfin, où se recrée Libération, pas celui d'Emmanuel d'Astier de la Ligerie après la Libération, mais il a été repris par Jean-Paul Sartre, notamment, et donc c'est des... Moi, je fais partie de cette génération qui est née à la presse, à la consommation de presse, dans ces moments où il y avait une remise en cause d'une presse un peu formatée. L'ORTF, vous avez peut-être vu, ou si vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous mettez... ministère de l'Information, Alain Perfit et Zitron, où le ministre de l'Information du général de Gaulle, Alain Perfit, vient expliquer dans le journal télévisé quel est le sommaire du journal télévisé. Il faut se souvenir, c'était ce moment-là. Et donc, je suis adolescent à ce moment-là, Libération, les premiers journaux lycéens, les radios libres. On peut être très critique sur ce qu'il est devenu par la suite, mais il y a quand même un certain nombre de médias d'émancipation ou de communication sociale. Parce qu'il y avait à l'époque au moins deux associations qui fédéraient les radios libres en gestation ou en qui naissait. Il y avait l'Association pour la libération des ondes, ils sont plutôt partis dans la direction des réseaux qui faisaient commerciaux et publicitaires, et la Fédération nationale des radios libres qui défendait un modèle associatif. Donc voilà, c'est associatif et donc des radios de communication sociale. Ce que vous faites un peu ici, quelque part. Hein. J'ai à nouveau une parenthèse. Après ce soir, en suivant des études, financées tout en étant salarié, et puis à la fin de mes études, je suis devenu journaliste en passant par la petite porte, comme on dit, celle de correspondant local de presse. Comme et je me suis rendu compte que c'est une forme de précarité qui est extrêmement importante et dès lors qu'on est corvéable à Merci, on est extrêmement mal payé et on n'a pas de couverture sociale. Non, mais il faut le savoir. Et quand on fait ça en plus de son job et puis que son job ordinaire convient, ça peut convenir. Quand, comme plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de jeunes journalistes qui rentrent dans le métier, il y en a certains dont c'est la porte d'entrée, c'est une entrée dans la vie professionnelle extrêmement, extrêmement difficile. Ça m'est arrivé. Ce qui m'a valu, dès que j'ai obtenu ma carte de journaliste, d'être viré du premier quotidien régional où j'ai travaillé. Voilà. Et ce phénomène se produit encore aujourd'hui. J'ai en quelque sorte obtenu une forme de revanche, puisque j'ai été élu lors du mandat 2012-2015 à la commission supérieure de la commission de la carte de presse, qui est un organisme paritaire, qui réunit à la fois des journalistes salariés et des employeurs, des éditeurs, et qui délivre cette petite carte de presse dont vous avez peut-être entendu parler sur le petit journal, où vous avez peut-être entendu Pascal Clark pleurer sur France Inter, parce que la commission de la carte avait refusé le renouvellement de sa carte, parce qu'elle était passée du journalisme au divertissement. Voilà, et Patrick Cohen de France Inter a lui aussi coupé sa carte de presse en direct à l'antenne, en solidarité avec Pascal Clark. Mais comme la carte est renouvelée chaque année, je suis sûr que sa carte de presse sera renouvelée. Je vous parle de la carte de presse parce que ça raconte l'histoire de la profession de journaliste et de sa sortie d'une forme de précariat d'une part, et puis d'une forme d'instrumentalisation des pouvoirs, tous azimuts, de tous les pouvoirs. Le journalisme en France commence à s'organiser après la guerre de 14, où, vous savez tous, il y a eu d'énormes opérations de censure, des opérations militaires, et naît à cette époque le syndicat des journalistes, comme on l'appelait, et 17 ans après, en 1935, est votée à l'unanimité du Parlement une loi qui régit encore le travail des journalistes, qui définit ce que sont les journalistes. Très rapidement, c'est ceux qui vivent du journalisme, c'est une paraphrase de cette phrase, et est créée également la commission de la carte de presse. Voilà, c'est... Après avoir été viré du Progrès...
1935.
Il y a une deuxième loi extrêmement importante, c'est la loi que tout le monde connaît, du 29 juillet 1881. Qui est la loi qui instaure le principe de la liberté d'expression et qui limite l'abus de cette liberté d'expression. C'est pour ça qu'on voit interdit d'afficher. On voyait dans notre jeunesse. Interdit d'afficher, loi du 29 juillet 1881. C'est une loi extrêmement importante parce qu'elle écrit dans le marbre, si on peut dire, le principe de la liberté d'expression, sauf à répondre des abus de la liberté d'expression. Et les abus, la divulgation de fausses nouvelles. Il y a eu un temps, il y avait l'outrage au chef de l'État ou au chef d'État étranger, la diffamation. Diffamation, injure, ça vous dit quelque chose? Parce que ça fonctionne encore, ce type de délit de presse. Voilà. C'est deux très grandes lois. Après avoir été viré du Progrès, je me suis fait embaucher à l'Est républicain. Par piston, il faut bien le dire, j'avais un copain de collège, un copain de collège dont le père était directeur régional. Et comme j'avais quelques velléités de photographe et de... j'en ai pas honte, parce que si j'avais pas été bon, parce que je me souviens du fils d'un autre, il était pas bon, il a pas été... Il a été essayé, puis il a été lourdé après. Puis Voilà, c'est comme ça que ça marche, hein, dans plein de domaines d'activité. J'y suis resté 23 ans, à l'Est républicain. J'y ai fait du syndicalisme, y compris au niveau le plus haut. J'ai été le représentant des journalistes à l'Est républicain. Et j'ai été dirigeant national du principal syndicat de journalistes. C'est ce syndicat qui m'a demandé d'être candidat à la commission de la carte de presse. Voilà.
SNJ, ça ?
Pardon ?
C'est le SNJ.
Le SNJ, oui. Le SNJ, c'est le principal syndicat. Il n'a aucun permanent journaliste. Donc, le premier secrétaire actuel est fait diversier au Progrès de Lyon, à Bourg-en-Bresse. Hein, et il travaille en gros à mi-temps. Hein. C'est le principal dirigeant, c'est le premier dirigeant du principal syndicat journaliste. Il est au travail la moitié de la semaine. Hein. Donc il connaît bien, et il fera deux mandats, et puis après... je vous dis ça parce que ce syndicat est un lieu... une organisation qui a un congrès annuel qui dure en général 3 jours et demi et où se réunissent les représentants de toutes les formes de presse, télé, radio, web, presse écrite, magazine, mensuel, hebdomadaire, quotidien, avec la particularité d'être essentiellement des journalistes de presse d'information. On a environ 37 000 cartes de presse valides qui sont distribuées chaque année, enfin renouvelées chaque année. Hein. En gros, 37 000 journalistes avec une carte de presse. Et on peut dire qu'il y en a un gros tiers qui travaille dans la presse d'information. Les autres travaillent dans d'autres entreprises de presse, et c'est plutôt de la presse soit spécialisée, soit magazine, soit de divertissement. Hein, spécialisée dans le ski de fond, dans... tennis, la cuisine. Vous voyez un petit peu la différence. Hein, qu'il y a... Et d'ailleurs.
Et ça représente quoi ? 2/3 ?
Je dirais 1/3, 2/3. C'est à la louche parce que je n'ai pas les derniers chiffres. En tout cas, ça permet de catégoriser, de faire deux grandes catégories qui sont assez importantes pour les aides à la presse et pour les reconnaissances par la commission paritaire des publications et agences de presse. Qui sont importantes et indispensables pour avoir le statut d'entreprise de presse avec un certain nombre d'avantages fiscaux. Et d'ailleurs, quand il est question au Parlement, et donc dans les débats politiques nationaux, de revoir l'orientation du 1,5 milliard d'aide à la presse, c'est quand même pas rien, certains parlementaires se disent qu'il faudrait quand même privilégier la presse d'information générale et politique plutôt que la presse de divertissement. Hein. Parce que pendant très longtemps, c'était les 7 jours qui récupéraient le maximum d'aide à la presse. Et oui, il faut savoir ce genre de choses.
Alors que Mediapart, on
ne le rappelle
jamais.
Oui, mais ça, c'est une histoire de TVA. C'est... on pourra en parler après dans la discussion, si vous voulez. Parce que... Closer touche la même chose aujourd'hui. Hein, ce sont les mêmes critères. Donc cette distinction entre presse générale d'information, presse d'information générale politique et presse de divertissement, elle est pertinente. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il peut y avoir, il y a un enjeu dans la distribution de cette manne publique qui fait qu'il y a des rapports de force très importants à l'intérieur des journaux, des directions des journaux et le monde politique. C'est pour vous dire aussi que, en gros, il y a une grosse moitié, voire les 2/3 des journalistes qui se sentent moins impliqués dans tous les débats sur la déontologie, sur le sens de l'information, parce qu'ils sont dans des niches, mais comme il y a une multitude de niches, ils sont moins dans le traitement de questions d'intérêt citoyen, d'intérêt général, d'intérêt... Ils sont plus... voilà. Et ces journalistes-là votent beaucoup moins aux élections à la commission de la carte. Hein, parce qu'on vote tous les 3 ans. J'ai brossé pas assez vite. Hein. En vous parlant de ma carrière, donne peut-être quelques informations. J'ai traité quasiment toutes les rubriques, du fait divers à la politique, en passant par l'agriculture, et l'environnement. Et puis c'est les dernières rubriques que j'ai traitées quand j'étais à l'Est républicain. Et c'est celles qui m'ont donné le plus de plaisir, parce que franchement, les collègues byzantins ont un peu de mal à venir dans le monde rural, sur le plateau, alors que moi j'adore ça. J'adore les commissaires agricoles, j'adore les crêtes du Jura. Et puis je vis aussi depuis quelque temps à moitié à Besançon et à moitié dans un petit village du Jura, dans le vignoble. Et votre initiative ici là me fait penser à la foison de petites initiatives qui me semblent avoir de l'avance dans le Jura par rapport à ici.
Dans la montagne.
Ça me semble. C'est ce qui me semble. La montagne, le Revermont, les plateaux.
Le Revermont aussi.
Et j'ai grandi en Haute-Saône. Moi, j'ai quand même souvenir que la Haute-Saône était, au milieu du XIXe siècle, le département le plus peuplé de Franche-Comté. Et qu'il a vécu un très, très. Avec 356 000 habitants en 1800, je ne sais plus combien, 54. Et qu'il a vécu un très lent déclin. Jusque dans les années 70. Et que. Non, mais c'est très difficile de s'en mettre à déclin. Alors qu'il y a à nouveau de la dynamique démographique en Haute-Saône. Mais c'est difficile de. Alors que les deux autres départements, le Jura a repris une dynamique démographique il y a bien plus longtemps. Et le Doubs en a eu une constante. Et donc c'est plus facile de s'organiser. Quand il y a une dynamique démographique et économique. Mais la Haute-Saône n'est pas produit pour autant.
Voilà.
Quoi ? Très rapidement, je voudrais aborder je vais essayer d'aller le plus vite possible. Mais je tiens vraiment à évoquer ces questions-là parce que c'est souvent l'angle mort des débats sur la presse. Et des débats sur la responsabilité des journalistes, sur l'impact des informations quand elles sont publiées, et puis quand on dit « Oh, les journalistes, vous pensez pas à ce que vous écrivez, ou aux effets que ça fait, ou... » C'est les conditions de production de l'information. Les conditions de production, c'est l'économie, c'est la technologie, c'est des équipes de travail, c'est des actionnaires, publics ou privés, en général privés, de plus en plus privés. Ce sont des évolutions techniques qui sont maîtrisées par personne. Ça, c'est les conditions de production. Et les conditions de production, elles sont extrêmement importantes. La presse, telle qu'on se la représente aujourd'hui, elle naît, si on peut dire, de la conjonction du télégraphe et du chemin de fer. Et c'est la presse imprimée, écrite. Le télégraphe pour télégraphier des informations, le chemin de fer pour acheminer les journaux pour les porter. Mais il y a eu d'autres. Dans des tas de production, il y a des ruptures technologiques qui font qu'il y a des changements. Pas que dans la presse, hein, dans le lieu, mais la presse en fait partie. Le bélinographe a inventé la besoin. Il y a un musée, bélinographe, c'est en quelque sorte une télécopie de photos qui a permis que la presse publie des photos. Si vous avez à l'esprit le J'accuse, le terror, il n'y a pas une seule photo parce que le bélinographe n'est pas inventé à l'époque. Et puis comme ça, il y a plusieurs. Il y a plusieurs évolutions dans la production, les voitures vont plus vite, donc on peut porter les journaux plus loin. Il y a l'offset dans l'imprimerie, mais arrivent aussi les radios, qui ne tuent pas le papier. Arrive la télévision, qui ne tue pas la radio, qui ne tue pas le papier, et arrive aujourd'hui... L'informatique, le numérique, on a l'impression que ça va tout balayer, mais non, ça va se rajouter et puis ça va faire un réajustement entre les autres formes. Mais c'est comme dans la banque, comme dans tout un tas d'autres industries, c'est, c'est un vent extrêmement puissant. Hein, donc ça, et pas grand monde ne maîtrise ça. Et aujourd'hui, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, c'est la révolution numérique bouleverse tout, et en particulier dans la presse écrite, au point que les dirigeants, qui sont de moins en moins des éditeurs de presse comme on a pu en connaître un temps, qui étaient des intellectuels, des journalistes, des philosophes, mais qui aujourd'hui sont quasiment tous obnubilés par les comptes de résultats et par la captation de marchés publicitaires. Hein, c'est leur moteur. Ils regardent essentiellement l'adaptation des outils, des journaux aux outils. Alors quand je dis les journaux, c'est tout technologie confondue. Et donc ils sont à la remorque des adaptations technologiques. En même temps qu'ils sont, parce qu'il y a une profonde mutation des consommateurs de presse, consommateurs, lectorat, auditorat, téléspectateurs, audimat, etc., internet, une profonde mutation du lectorat vers l'internet gratuit. Un temps, il y a eu un petit passage vers les journaux imprimés gratuits. On voit à la fin du siècle dernier une augmentation du tirage, mais très vite une diminution depuis ces dernières années aussi des journaux imprimés gratuits. Je rentre pas dans les détails, mais ce vent qui balaye tout, qui est financier, technologique, et puis dans la façon de consommer les journaux, s'il y a des questions après, moi je pourrais vous donner plus d'informations, conduit à l'accélération des concentrations dans la presse écrite. En France, ça conduit au fait qu'il n'y a plus que, en gros, 5 groupes pour la presse quotidienne régionale. Le plus grand de ces groupes étant le groupe EBRA, qui n'est pas un groupe juridique, mais un groupe sémantique, une appellation sémantique. Ça, je ne sais pas si ça passera dans le statut républicain. Alors, à la lecture, ils vont voir le chef en disant...
C'est l'ancien groupe Ersan.
Alors, le groupe... J'y viens. Le groupe EBRA, c'est le pôle presse du Crédit Mutuel, mais quand vous regardez l'organigramme du Crédit Mutuel, on le voit nulle part. Oui. C'est 9 journaux. Le Républicain Lorrain à Metz, et donc en Moselle, les Dernières Nouvelles d'Alsace à Strasbourg, qui était dans le groupe Est Républicain depuis 1997, le Journal d'Alsace à Mulhouse, qui était depuis, je ne sais pas combien, 50 ou 60 ans, propriété du Crédit Mutuel, et qui avait créé dans les années 80 le Pays de Franche-Comté, édition franc-comtoise de l'Alsace, c'est l'Est Républicain, c'est le Bien Public à Dijon, c'est le Journal de Saône-et-Loire en Saône-et-Loire, c'est le Progrès de Lyon. C'est la Tribune de Saint-Étienne qui appartient au Progrès. C'est le Dauphiné Libéré et Vaucluse Matin, qui est l'édition du Vaucluse du Dauphiné Libéré. C'est gigantesque. C'est plus important que Ouest-France. Et ça a été créé. Alors moi, je l'ai vu arriver parce que j'étais aux affaires syndicales à l'époque à l'Est Républicain. J'ai vu arriver
cette vague.
La création de ce truc-là, ça a commencé en 2006, ça s'est achevé en fin 2011. Et la banque, le Crédit Mutuel, a géré avec beaucoup de difficultés, mais aussi un peu comme un banquier, cet ensemble, en disant on va mutualiser. Des mutuelles, c'est normal. Ils mutualisent. Ils payent, ils mutualisent l'achat de papier, ils mutualisent des DRH là où c'est possible, ils mutualisent des services abonnements, ce qui fait qu'avant, vous appelez « j'ai pas reçu mon journal. Ah, ben Robert, oui, t'es à tel endroit. Et si c'est une plateforme qui est à l'autre bout du pays, vous êtes où ?» Ah, oui, Élisier Cusonnier, c'est où ça ?» Et étalons, c'est où, voilà. Ben, au pays, ils ont parfois rétro-pédalé hein, sur des choses comme ça. Ils ont également, et c'est là, ils ont également mutualisé les services d'information générale et les services de grand reportage et d'enquête dans un BIG, le Bureau des informations générales, qui est situé à Paris, en prenant un, deux ou trois journalistes par chacun des titres, et en fermant les services d'information générale de chacun des journaux. Le BIG a pris son autonomie juridique, c'est devenu une agence de presse qui vend qui vend les articles d'information générale à chacun des titres. Et qui se met en ordre de marche pour fabriquer aussi des produits Internet et vendre également des articles d'information générale à d'autres journaux en dehors de ce groupe. Le deuxième énorme truc, c'est que bon, vous imaginez bien que toutes les banques ont développé des savoir-faire technologique, informatique extrêmement important, avec le paiement en ligne. Il y a donc les filiales informatiques du Crédit Mutuel ont mis la main, ont imposé à ces 9 journaux des outils informatiques qu'elles leur vendent, qu'elles leur louent, qu'elles facturent, pas forcément au prix coûtant, parfois à un prix d'amis, mais qu'elle facture quand même la maintenance, récupérant au passage la maîtrise des tuyaux dans lesquels passent les flux informatiques, les flux de données, les archives, et ce faisant, pompant, si on peut dire, une grande partie de la valeur ajoutée ou de la du bilan, de ce qui est riche dans un bilan des entreprises. Du point de vue de la banque, c'est une réussite, quelque part. Du point de vue des journaux, c'est catastrophique parce que d'autres chantiers n'ont pas été menés, en particulier la compréhension de l'évolution du lectorat, parce qu'on n'est que comptable et banquier, on n'est pas... La compréhension de l'évolution du lectorat, ça demande d'autres compétences que des seules compétences techniques financières. Ne réussissant pas à organiser la mutation numérique vers les journaux en ligne. Les recettes en ligne des journaux de ce groupe, c'est entre 0,5 et 2% du total des recettes. C'est peanuts, quoi. Et en 2014, l'ensemble de ces journaux ont eu des pertes d'exploitation de 50 000 euros. Alors, le Crédit Mutuel a gagné 3 milliards d'euros. Il y a de la marge, mais l'homme qui a opéré cette affaire-là, Michel Lucas, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été présenté comme un second Papivore après Robert Versant. Michel Lucas est en train d'être démis de ses postes de direction à la banque. Il y a au moins trois organismes, et sur deux des trois, il a été remplacé par Nicolas Terry, qui est un quadragénaire, donc qui a 25 ans. 30 ans de moins que Michel Lucas, qui a gardé la présidence d'une association de droit alsacien, Moselin alsacien, qui lui permet de garder le contrôle des journaux. Mais je vous dis ça parce qu'il y a eu à l'intérieur du Crédit Mutuel, à l'intérieur des cadres dirigeants du Crédit Mutuel, des dissensions qui ont conduit à poser des questions à Michel Lucas, pourquoi il avait acheté tous ces journaux. En fait, il avait envie d'abord de s'acheter de l'influence comme ça. Mais l'opération est financièrement pas terrible. Voilà pour les raisons que je viens de vous expliquer. les énormes problèmes financiers créés, vous pouvez vous en douter, des difficultés sociales, on incite à de la mutualisation d'un titre à l'autre, ça remet en cause des...
L'information.
Ça remet en cause aussi... Enfin, ça remet en cause quelque chose d'un peu complexe. Je ne rentre pas dans les détails, je le ferai si vous le souhaitez. Le droit d'auteur, qui est un droit particulier, qui n'est pas dans le droit du travail, mais que les journalistes peuvent revendiquer, on sont en droit de revendiquer. C'est-à-dire que quand on écrit un article, le Crédit Mutuel a demandé aux journalistes d'accepter que leurs articles soient repris dans les autres titres. Et il y en a un certain nombre qui ont résisté, un peu comme Astérix, en disant « Non, non, moi je ne veux pas mutualiser mes articles ». Et ces journalistes-là, s'ils sont très compétents dans leur domaine, on ne les envoie plus sur des sujets mutualisables. C'est-à-dire qu'il y a des mises au placard qui s'effectuent sur ce type de... Enfin, voilà. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue éditorial, du point de vue des ressources humaines, comme on dit, des journalistes, des équipes, et puis, à mon sens, du lectorat, c'est un échec, cette politique. Et donc, il est possible que ces journaux soient morts. Je suis rentré dans ces détails-là pour vous dire que, moi, j'en avais fait, pas l'analyse complète, mais au préalable, et j'avais interrogé le nouveau directeur général après le rachat par le Crédit Mutuel. Et ça m'avait. J'avais posé des questions sur la politique éditoriale qui allait advenir et sur la façon dont on pourrait travailler. Ça m'a conduit, moi, à partir, c'est-à-dire à actionner une disposition de la loi de 1935 qui dit que quand un journal change d'actionnaire, le journaliste peut invoquer une clause en disant je ne sais pas, vous, j'ai signé le contrat, parce que c'est quand même pas un métier comme un autre, et je pars, et c'est vous qui me payez mes indemnités. On est loin de savoir lire la presse, mais en fait, on est quand même dans des conditions de production qui impactent beaucoup. Je vous ai dit, puis je vais peut-être m'arrêter là, juste après. Ces conditions de production, cette absence de réflexion éditoriale, d'investissement dans de la formation, dans de la réflexion. Certains titres l'ont fait, mais ce titre-là n'a pas fait. Et fait que on agit dans l'urgence, on part au plus pressé. Et donc, on se dit. Ah, on va essayer de faire ce qui se vend, mais à court terme. D'où cette impression de coût. On fait des coûts éditoriaux. On essaye de reproduire dans quasiment tous les domaines, dans tous les types de rubriques, ce qui ressemble au fait divers. Le fait divers, c'est un coût qui arrive, c'est un truc un peu imprévu. Et donc on essaye de pousser les journalistes à travailler tous les domaines un peu sur ce modèle. Et c'est ça, moi, qui me semble important, parce que c'est ce que les lecteurs, les consommateurs de presse, voient en premier. J'étais lundi et mardi avec les... Vraiment, ça tombait très bien. Il y avait une réunion de tous les délégués SNJ de ce groupe à Besançon. Donc, c'est des gens que je connais pour la plupart. Il y avait donc le fameux premier secrétaire qui est fait diversier à Bourg-en-Bresse, qui me disait, tu te rends compte, on a fait une page entière sur l'intervention des pompiers pour un chien coincé au-dessus d'une barre rocheuse. Une page. Et quand, parfois, il arrive de téléphoner à un maire pour lui dire, vous voulez pas me dire un peu plus là, sur les circonstances de tel accident, ça, il dit, le maire, moi, ça m'est arrivé à moi aussi, il y a plusieurs années, sur des modes à peine différents. Vous avez supprimé le correspondant, vous ne parlez plus de la vie de la commune, et vous m'interrogez sur quand il y a un problème. J'ai pas envie qu'on parle de ma commune quand il y a un problème. Ou qu'on parle seulement de ma commune quand il y a un problème. je vous dirai rien. Et ça, ces témoignages-là, les journalistes ordinaires, ceux que vous connaissez, et même les correspondants, ils l'entendent, et les gens tout en haut, ils l'entendent pas. Voilà. Et donc, quand on lit le journal, je pense, moi, qu'il faut avoir à l'esprit ces conditions de production du journalisme. J'ai respecté les 20 minutes.
Presque.